your audience?
Everyone. We want to reach the widest audience possible.
Well, I think that's wrong.
Excuse me?
You don't need everyone. Your problem is that you're talking broadcast. Cable is different. Cable is about one thing, niche.
Wakey, wakey, biatch.
I kneel before no one.
My name is Jenny Garth. I play Kelly Taylor on the show.
Oh, that's you.
Yeah.
Oh, you look so much older than her.
Don't go there, Jenny Jugger.
Shit, it looks like CSI Nigeria in here.
If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster.
What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker.
Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, première édition de cette saison, saison 7, 7 un quart, un truc comme ça. Elle est en fin de retour, cette émission qui vous parle de séries télévisées sur Buzz Radio, et pas que, avec l'ami Aurore.
Bonsoir.
Bonsoir, comment ça va ?
Écoute, ça va.
Voilà, alors, on a mis le temps...
Je ne suis pas morte.
...à revenir avec cette émission, surtout toi. Et moi.
Bah toi aussi.
Du coup, avec eh bien beaucoup d'activités qui se sont succédées en cette rentrée et qui ne nous ont pas permis vraiment de s'y mettre plus tôt.
Voilà, c'est aussi bête que ça.
Tout simplement, et puis on voulait revenir dans de bonnes conditions aussi. Série Folie, en gros, eh bien, ça repart dans la même formule avec une première émission. On va pas se prendre la tête, on va revoir les séries qu'on a pu grignoter durant l'été.
Oui, exactement.
Il y a longtemps, hein.
Voilà, c'était il y a longtemps, mais en même temps, si je dois faire le bilan et de l'été et de la rentrée, ça va pas prendre seulement une heure, si tu veux mon avis. Donc, on va faire l'été là maintenant, et puis toutes les séries de la rentrée.
Reviendront naturellement.
Reviendront petit à petit, au fur et à mesure des épisodes. Voilà.
Bien.
Donc, je te propose de commencer tout de suite par les nouveautés qu'on a pu découvrir cet été.
Ben oui, bonne idée.
Voilà. Alors, il y a un certain nombre de nouveautés que j'ai regardées, appréciées et donc terminées. Il y a aussi celles que j'ai regardées, pas appréciées ou devant lesquelles je me suis ennuyée assez rapidement et que je n'ai pas terminées. Il y a celles que j'ai eu l'occasion de commencer, qui m'ont donné très très envie de continuer, mais que j'ai pas encore eu le temps voir en entier. Et puis il y a celles que j'ai simplement pas eu le temps du tout de commencer. Donc autant dire qu'il y en a beaucoup. Ici, je vais évidemment surtout me concentrer sur celles que j'ai eu l'occasion de regarder en entier, qui m'ont plu, que je peux conseiller comme étant des séries très agréable. Voilà.
Bien.
Pour ceux qui ne les auraient pas encore vus.
Oui, donc, à rattraper, puisque, en gros.
C'est vrai que ça fait déjà 2-3 mois qu'elles sont disponibles pour la plupart d'entre elles. Alors, on commence tout de suite par le commencement. On va vers quelle plateforme pour commencer ? Commençons par Netflix. C'est la plateforme la plus connue chez nous. Il y a une série, c'est même une mini-série qui sort clairement du lot, que j'ai eu l'occasion de regarder cet été, ça s'appelait Unbelievable. C'est une mini-série qui nous raconte une histoire vraie, un petit peu, tu vois, comme In Their Eyes, c'était ça, hein, la série qui nous racontait, fin de la saison passée, l'histoire cinq jeunes afro-américains oui. Accusés à tort. Ici aussi, c'est une histoire vraie. Et ici aussi, c'est vraiment très, très prenant et poignant comme histoire vraie. erreur judiciaire, hein, on peut clairement le dire. Cette fois-ci, il va s'agir en fait d'une affaire de viol qui va être très très mal traitée. Alors autant dire que le premier épisode est assez difficile à regarder. Donc moi je dois avouer que j'étais assez dérangée et que j'avais un peu trop l'impression qu'on avait un regard trop masculin sur justement les faits qui étaient relatés, et ça me dérangeait beaucoup. Et c'est seulement à partir du deuxième épisode que j'ai compris tout l'intérêt du malaise qui avait été installé lors du premier épisode. Donc voilà, si vous l'avez commencé et que vous avez estimé qu'il ne fallait pas continuer, ben peut-être justement, pour une fois, je vous conseillerais plutôt de continuer, puisque la suite explique la manière dont ça a été présenté dans le premier épisode, mais en plus guérit un petit peu les plaies qui ont été ouvertes par le premier épisode, quoi. Donc c'est vraiment très réparateur de regarder cette série jusqu'au bout, puisque heureusement, sinon j'imagine qu'on n'en parlerait plus, qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui, mais cette erreur judiciaire va finir par être réparée. Hein, elle a été découverte, et puisqu'on en parle. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que vraiment ça a un propos extrêmement fort sur justement la formation des enquêteurs, des policiers pour les affaires de viol. Ça a un propos ça accompagne vraiment les spectateurs dans la découverte de ces problématiques, et c'est fait avec beaucoup de brio, avec des actrices et même des acteurs assez exceptionnels. C'était vraiment un plaisir de voir cette petite série. Comme quoi, hein, parfois, souvent même, je peste contre les mini-séries, mais là, vraiment, c'était un petit coup de cœur pour moi. Donc, Unbelievable sur Netflix, je le conseille. Bon.
Voilà, pour le premier choix.
Et oui, et niveau Netflix, ben, figure-toi que c'est la seule. C'était la seule nouveauté que j'aurais retenue, puisque la seule autre série Netflix que je vois dans ma liste des nouveautés, c'est Dark Crystal, mais j'ai pas encore eu le temps de la regarder. Donc voilà, je me la réserve pour plus tard.
Bien.
Alors cette fois-ci, on va aller du côté d'Amazon.
Mais oui.
Voilà.
Ce nouveau provider que tu suis depuis quelques mois maintenant.
Bon, même plus, hein. À mon avis, ça fait bien 2-3 ans, si
ah
tu
oui,
veux.
Ah oui, toi, Amazon.
Oui, puisque c'était pour Mrs. Maisel, et Mrs. Maisel, je crois, on est à sa troisième saison. Donc,
d'accord, bon, c'est moi qui ai l'impression comme ça que c'est un nouveau format, mais non, de
ça
fait.
Ça date. Bref, la série que j'ai regardée, bingée, je l'ai même re-regardée une deuxième fois, puisque je l'ai proposée à ma famille ensuite, et donc j'ai eu l'occasion de la voir deux fois, c'est The Boys. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une série extrêmement intellectuelle. C'est une série qui nous présente un monde dans lequel on a une sorte de World Company des super-héros qui mène un marketing assez offensif sur l'ensemble du globe, un petit peu comme si c'était une sorte de Disney Company, mais avec des super-héros qui s'occupe autant de divertissement que de sécurité nationale et de défense. Donc c'est un mélange un petit peu particulier. Il y a aussi toute la gestion de la foi qui est prise en main par une branche de cette compagnie. Donc voilà, c'est un peu particulier. On suit l'histoire d'un jeune homme très, très très moyen, voire un peu médiocre, qui va se retrouver embarqué dans une confrontation justement avec les fameux super-héros de cette compagnie. Alors il y en a évidemment dans ce monde-là, il y a plein de personnes qui se découvrent des pouvoirs, mais la compagnie n'en met en avant que 7 qui sont vraiment ceux qui ont le plus de pouvoir et qui sont les plus représentatifs, enfin ceux qui peuvent vraiment être la tête de gondole de la marque, quoi. Hein. Et bon, malheureusement, il va se révéler que ces super-héros sont loin d'être aussi parfaits et au service des autres qu'ils veulent bien le prétendre. Et donc, bah, va s'engager une sorte de combat, enfin un combat évidemment un peu souterrain, hein, puisque c'est pas le genre de personnage que tu combats en face, sinon t'es sûr de gagner, entre donc ce jeune homme qui va rencontrer des alliés, hein, dans son parcours, et la grande et méchante compagnie qui va tout faire pour qu'il ne révèle pas ses vilains secrets. Voilà, je sais pas si...
Oui, j'ai suivi, plus ou moins.
T'as l'impression que j'ai plus ou moins bien expliqué de quoi il s'agissait, ou bien t'aurais quelque chose à rajouter? Je sais que tu l'as vu aussi.
Oui, en partie. Hein.
En partie seulement?
Oui, oui, oui.
Et alors, t'as quelque chose à rajouter?
Non.
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette série-là aussi, non seulement parce que c'est... très très fun, je peux le dire comme ça, assez déjanté, on n'hésite pas à inventer des trucs vraiment extrêmes, mais en même temps j'ai trouvé qu'il y avait un petit sous-texte particulièrement intéressant sur justement la manière dont le marketing et la politique, la religion, le divertissement, tout ça pouvait parfois se mêler pour obtenir de nous autres petits citoyens que nous sommes, une adhésion pleine et entière à des projets politiques assez inquiétants. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien vu, bien joué. Là aussi, avec une brochette de personnages assez savoureux et très bien incarnés chacun. Donc je vous laisse découvrir ça sur Amazon, ça s'appelle The Boys.
Bien.
Alors il y a d'autres choses aussi, hein, sur Amazon que je n'ai pas vues cette fois-ci encore. Et donc ben, ce sera pour un petit peu plus tard, c'est Carnival Row et Undone. Il paraît que c'est bien, en tout cas j'en ai entendu de bonnes choses, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder par moi-même, donc à suivre.
À suivre, comme tu le dis.
À suivre. Alors maintenant, on vient sur d'autres séries qui sont moins accessibles directement sur des plateformes tout public, on va dire ça comme ça. Et je vais commencer par la première qui nous a été proposée cet été donc par HBO. Et ça s'appelait The Righteous Gemstones. Je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agissait. Il s'agit de une série de... Alors, comment il s'appelle encore, lui? C'est Danny... Bon, bref, j'ai oublié. Celui qui jouait Kenny Powers, celui qui a ensuite nous a proposé Vice Principals. Cette fois-ci, il nous revient avec donc The Righteous Gemstones. Il s'agit d'une famille de... d'évangélistes, ils sont évangélistes.
Je vois de quoi tu veux parler.
De père en fils et en fille, surtout en fils d'ailleurs. Ils ont des énormes églises qui brassent un pognon de dingue, comme diraient certains. Et il y a une sorte de petit conflit entre un des fils James Stone, qui est donc sous la houlette du patriarche de la famille, et son propre fils. Et on va découvrir au fur et à mesure des épisodes ce qui s'est passé entre eux, la raison pour laquelle il est parti de la maison. Et puis on va évidemment découvrir que cette famille-là est loin d'être aussi chrétienne et charitable que son métier pourrait nous le faire penser. Voilà. Alors c'est du enfin c'est dans la lignée de ce que Danny McBride, voilà, c'est lui, a pu nous proposer jusqu'ici. On est vraiment sur le même type de personnage, à la fois totalement égoïste, puéril et capable de faire les choses les plus dégueulasses, hein, aux autres notamment. Et en même temps, avec un côté un petit peu attachant, parce que malgré tout, il est capable de se rendre compte qu'il est un gros con à certains moments. Il est capable d'évoluer, de changer, et donc ça contrebalance et ça en fait un personnage qu'on a envie malgré tout de sauver au final, même si c'est pas du tout gagné quand on sait toutes les saloperies qu'il est capable de faire. Donc voilà, ce que j'ai apprécié notamment par rapport, Kenny Powers c'était fort lui tout seul, hein. Dans Vice Principals on avait Kenny Powers et on avait Walton Goggins qui jouait tous les deux ce type de personnage assez à la fois détestable et attachant. Cette fois-ci, il y a encore plus de place pour d'autres personnes, puisque c'est toute une famille. Le père de famille qui est joué par John Goodman. On a Danny McBride qui a également une sœur et un frère. Et puis il y a les enfants de Danny McBride. Enfin, donc il y a la place pour plus de personnes, plus le vilain oncle revanchard qui est encore une fois joué par Walton Goggins, qui est toujours assez génial dans chacun de ses rôles. Donc voilà, c'est très drôle, c'est très déjanté, c'est un petit peu n'importe quoi et ça va dans tous les sens, mais en même temps, c'est toujours un plaisir de retrouver ce type de divertissement-là. Donc, encore une fois, j'ai passé un bon moment devant The Righteous Gemstones.
Bien.
Voilà, ça c'était pour HBO.
Mm-hmm.
Alors, on va cette fois-ci du côté de Showtime. en tout cas, il me semble que c'était Showtime qui proposait cette série-là. Écoute,
à chaque fois tu t'engages dans ces voies-là, et puis bon.
Peut-être pas finalement, mais bref.
On te pardonnera.
C'est peut-être HBO, c'est un des deux en tout cas. Cette fois-ci, donc, je voulais parler d'une mini-série, encore une fois, qui s'appelle The Loudest Voice. Vous avez entendu d'ailleurs un extrait dans notre tout nouveau générique. The Loudest Voice, c'est encore une fois une histoire vraie. C'est basé sur la vie, en tout cas les dernières années de vie du créateur, je crois qu'on peut clairement le présenter comme ça, de Fox News, la fameuse chaîne d'info continue un petit peu diabolique, au minimum en tout cas très très diabolisée par chez nous, hein, et par un certain nombre de d'humoristes américain que l'on connaît également, donc très très à droite, très très conservateur, voire parfois carrément raciste, etc. Donc c'est ce personnage absolument adorable donc qu'on a la chance de suivre, qui non seulement donc va fabriquer de toutes pièces une toute nouvelle manière de faire de la télévision. Et en même temps, va bouleverser totalement le paysage politique américain, hein, avec ses idées extrêmement à droite et donc carrément d'extrême droite, bien souvent, très très paranoïaque sur sa manière de voir l'Amérique et ses volontés parfois d'émancipation, c'est la liberté qui peut s'y exprimer, etc. Donc c'est fascinant et effrayant en même temps de regarder cet homme-là, qui était particulièrement bien incarné par Russell Crowe, un Russell Crowe absolument méconnaissable. Alors... peut-être que c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que d'habitude, Russell Crowe, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais là, j'ai mis, je crois, peut-être un ou deux épisodes à le reconnaître. Mais j'ai totalement adhéré à sa performance, quoi. Même si, très clairement, j'aime pas du tout quand on met en avant une série en disant « Ah, c'est joué par un tel qui est méconnaissable, donc c'est bien. » C'est pas pour ça que c'est bien. C'est vraiment bien parce que le propos est passionnant, parce que c'est passionnant de voir comment se développe une révolution médiatique, une révolution politique, une révolution idéologique. Mais c'est aussi très très bien incarné donc, par les différents acteurs. Par ailleurs... j'ai oublié ce que je voulais dire. Par ailleurs, on a également la raison pour laquelle cet homme a fini par tomber. C'est qu'il y a une histoire de harcèlement sexuel qui a permis finalement de le destituer d'une place dont on le croyait...
Indétrônable,
oui. Et donc, c'est aussi intéressant de voir ça pour non seulement on rentre un petit peu plus dans le concret de ce que des mouvements comme MeToo pouvaient dénoncer, surtout que ce qui s'est passé là autour de Fox News et des accusations, c'était juste un petit peu avant l'affaire Weinstein, donc on était encore très fort plongé là-dedans. C'est intéressant de voir ça. C'est assez, c'est assez dérangeant aussi, hein, parce que le personnage vraiment n'est pas très très engageant, en tout cas quand tu es une femme, encore moins quand tu es une jolie jeune blonde apparemment. Donc, mais c'est fascinant à quel point c'est méprisable, quoi. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était aussi intéressant dans la manière dont on montrait à quel point l'idéologie qu'il véhicule est aussi totalement liée à ce genre d'agissement. En tout cas, on le voit notamment dans la manière dont il traite sa femme, dont il traite plus tard sa maîtresse, dont il va exiger de sa maîtresse qu'elle lui trouve une remplaçante, pour dénier la laisser s'en aller. Enfin, il y a des choses absolument effrayantes là-dedans, et on a peine à imaginer ce que ces personnes ont pu vivre, quoi. Donc voilà.
Oui, on le rappelle, basé sur l'histoire d'un gars qui a vraiment existé, quoi.
Oui, voilà. C'est tellement effrayant que de fait, on a du mal à se dire que ça existait. Et pourtant, de fait, Fox News, ça existe. On sait à quel point ça a pu aller dans les extrémités les plus dégueulasses à certains moments. Et donc, c'est assez déstabilisant, quoi. En tout cas, pour pour nous qui n'y sommes pas confrontés en permanence. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ceux qui aiment aussi les séries qui retracent un petit peu les faits, hein, c'est aussi très très bien fait à ce niveau-là, parce qu'on a vraiment, on suit à chaque fois une période, une année. Par exemple, on a tout un épisode autour de 2001, avec évidemment les attentats du World Trade Center, etc. Et la manière dont Fox News va pouvoir traiter le sujet sous l'impulsion toujours de son grand Manitou. Et on a comme ça plein de moments historiques qui sont visités sous ce regard-là, où on voit à quel point cet homme a eu une importance capitale jusque dans la campagne présidentielle de Donald Trump, quoi. Donc on suit son travail jusque, je crois que c'est en 2016, qu'il aide Donald Trump donc pour sa campagne, quoi.
Bien.
Voilà.
Le mot est effrayant, de fait. Moi, le personnage, bon, ok, c'est bien joué, mais le gars, il m'insupportait, quoi.
Ah oui, oui.
J'étais un peu énervé.
C'est très difficile à regarder à certains moments, mais bon.
Voilà. Alors, est-ce qu'on marquerait une pause ?
Écoute, c'est à toi de me le dire.
Oui.
Ça fait longtemps, oui.
Oui,
allez,
oui.
Alors.
Il est grand temps de marquer une petite pause musicale.
Bon, on va s'écouter Never Ending Story de Limahl, entendu dans Stranger Things.
Nous sommes de retour avec ce compte-rendu de ces épisodes revus durant l'été, par toi principalement, hein, Aurore. Mm-hmm. Ces saisons, ces séries nouvelles donc, que tu as pu visionner et apprécier.
Oui, alors c'était les nouvelles précédemment. Là, on va parler donc des saisons...
Déjà
suivante.
Entamé, enfin les saisons plus que un finalement.
Voilà, exactement. On va commencer tout de suite. Hein. On a entendu juste avant donc une chanson qui a été utilisée de manière assez particulière donc dans Stranger Things. Donc, je propose qu'on commence par ça. Mm-hmm. C'était donc la saison 3 de Stranger Things que nous avons eu l'occasion de voir cet été. Dans la lignée, j'ai l'impression personnellement, des deux précédentes. Même si la deuxième avait un côté avec la recherche de soi, de Eleven qui pouvait à certains moments déstabiliser un petit peu par rapport à la saison 1. Mais là, on est de retour sur un mode un petit peu plus léger. Bon, toujours évidemment avec des enjeux quand même dramatiques, hein, puisque c'est toujours l'avenir quasiment du monde qui se joue. Je sais pas, moi j'ai toujours aussi bien aimé. Même si je me pose un petit peu des questions sur l'avenir de la série, étant donné la manière dont s'est terminée cette saison 3. Ça, c'est la première chose. Et puis, malgré tout, on se dit que le fait que ce soit toujours le même problème qui se repose au même endroit, quasiment de la même manière, quoi... on se dit que ça peut pas non plus durer 10 ans comme ça. Il y a un moment, on a peut-être fait le tour. D'ailleurs, la fin de la saison 3 suggère un déménagement peut-être. Donc de fait, ça risque de changer la donne pour la saison prochaine, quoi.
Oui.
Je sais pas ce que toi t'en as pensé, si tu prends toujours autant de plaisir.
J'ai l'impression que oui, plus que la saison 2. Saison 2, je l'ai trouvé un peu plus noir, un mm-hmm. peu plus. Ici, on était dans l'action, il n'y avait pas vraiment de suspense haletant par rapport au but et au tenant et aboutissant. C'était, c'était oui. Bien suivi, il y avait de l'humour.
Oui, c'est ça, il y avait peut-être un petit peu plus d'humour dans cette saison-ci, même si malgré tout, toute l'histoire avec le frère de Max est un petit peu flippante quand même. Hein.
Oui,
ça donne pas envie, ça, très clairement. Mais clairement, il y a un côté très... Enfin, ils arrivent à mettre suffisamment de légèreté, d'humour à chaque fois, soit par les tenues un petit peu ridicules de certains personnages, soit par simplement les personnages en question qui peuvent eux-mêmes avoir des obsessions parfois un petit peu ridicules. Enfin, non, j'ai trouvé que c'était relativement bien mené, bien équilibré. Donc voilà, c'était plutôt sympa.
On est bien d'accord.
Alors, donc ça, c'était pour Stranger Things. Mais c'est pas la seule série qui était de retour cet été. J'ai eu plutôt beaucoup de plaisir à retrouver Mindhunter. Ça faisait quand même un petit temps hein, qu'on avait vu la saison 1. Saison 1 qui m'avait plu, que j'avais apprécié, mais qui en même temps me laissait un petit peu extérieur. Et là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus suivi les personnages, j'ai un petit peu plus apprécié ce qui s'y passait, donc Voilà, plutôt. Enfin, il y a notamment toute une enquête à Atlanta qui donne envie de voir ce qui va se passer, la manière dont ça va être géré, s'ils vont réussir à trouver le coupable, le grand méchant. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Bon, comme toujours. Les interviews des différents serial killers sont assez impressionnantes, assez bien menées, haletantes malgré le côté statique de l'affaire, et toujours avec des incarnations par des acteurs assez bien choisis, bien castés. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très très appréciable dans cette série-là. La seule chose qui ne m'a pas entièrement convaincue, c'est l'histoire avec le fils adoptif de, je sais même plus quel est le nom de ce personnage, l'autre quoi, celui qui n'est pas Ford. Donc où je me suis dit, c'est quand même ballot que ce soit justement sur lui que ça tombe quoi.
Ça permet de rassembler comme ça un peu les personnages autour de deux intrigues.
Oui clairement, mais voilà. Étant donné qu'il, en plus, il cache tout et il mène tout de son côté, enfin, c'est, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. On se demande un petit peu pourquoi ils ont rajouté ça, s'il fallait donner de l'épaisseur et des tracas à ce personnage, ils auraient peut-être pu trouver un truc qui soit un petit peu moins évident par rapport à justement, ben c'est mon travail et justement il se passe un truc dans ma vie qui est exactement en rapport avec ce que je suis en train de poursuivre comme criminel quoi. Donc
ouais, ça fait un peu doublon, c'est vrai.
Oui, enfin, j'ai trouvé que cette partie-là aurait pu être évitée. Mais à part ça, bonne saison. Sur l'ensemble, hein, mais vraiment, c'est l'enquête à Atlanta qui m'a le plus intéressée. La manière dont, ben, au début, ça n'est même pas considéré comme méritant une enquête, hein. Toutes ces disparitions ne sont pas traitées pendant très très longtemps. Et puis la manière dont ils vont essayer petit à petit de rassembler des informations alors qu'ils sont dans des quartiers où il y a très peu de participation avec la police et donc très peu de manières de rassembler les informations. Tout ça, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus passionnant. Presque plus encore que, par exemple, il rencontre Charles Manson dans cette saison-là. Alors, j'adore l'acteur qu'ils ont choisi pour ce rôle-là, donc rien que le fait qu'il l'ait choisi lui, ça a pu me convaincre et ça a pu m'embarquer. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais pas spécialement convaincue, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir eu une interview avec Charles Manson. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un personnage qu'il fallait absolument voir représenté dans la série, quoi. Mais ça a été très bien fait, donc voilà.
Voilà, Madame est contente.
On va pouvoir dire ça comme ça, oui. Madame est contente. On a aussi vu la saison 2 et fin de D.O.A., si
oui,
je me souviens bien.
Fin polémique, puisque les fans sont extrêmement déçus de cette fin de non recevoir une autre saison.
Oui, mais il faut dire que c'est assez particulier, hein. Déjà, le début de saison est assez déstabilisant et on est assez perdu pendant un bon moment. Et puis, ben, si t'as eu le courage d'aller jusque-là, tu commences à suivre jusqu'à ce que le dernier épisode te reperde totalement, quoi. Est-ce que c'est bien résumé ou pas ?
Oui, mais bon, voilà, le dernier épisode, justement, ouvrait tellement de nouvelles possibilités qu'on avait envie qu'on nous explique, voir où ils voulaient en venir, et puis plouf, dans l'eau.
Est-ce qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient proposer un film de clôture pour ce truc?
On a déjà tout entendu, on a même déjà dit qu'ils allaient revenir en arrière et reproposer quand même quelque chose, enfin, voilà.
Écoute, à suivre. Je dois t'avouer que...
Et même que c'était un plan com pour justement faire patienter.
Ouais, bien sûr. Il suffit de faire une petite danse et on va le réanimer, c'est ça?
Oui.
Je sais pas. toujours est-il que moi j'ai voulu suivre, mais encore une fois, et c'est d'ailleurs comme dans la saison 1, au bout d'un moment, il n'y a rien à faire à force de me raconter des trucs auxquels je ne peux pas me raccrocher. Je finis par décrocher et par regarder ailleurs. Et du coup, je ne suis plus du tout l'histoire. Parce que si tu perds un petit peu, tu es définitivement perdu. Et moi, j'ai été définitivement perdu. Ça, je dois avouer que même si ça revient... Je suis même pas sûre que ça aura le moindre intérêt pour moi, vu que j'ai rien compris à cette saison 2.
C'est pas assez logique pour toi.
Ah, c'est sans doute un petit peu ça, oui. Enfin, oui. Il y a tout. Je me trompe pas, j'ai pas rêvé. Il y a une histoire avec un poulpe à un moment.
Je sais pas si je me souviens de tout.
Une espèce de grande, enfin un truc avec des tentacules qui laisse des traces sur les bras. Tu te souviens pas de ça?
Non.
Écoute, j'ai peut-être rêvé. Voilà, tu l'as peut-être rêvé. J'en sais rien. Mais toujours est-il que tu vois à quel point je sais pas dans quelle boîte mettre ce truc-là, tu vois, cet épisode-là. C'est un petit peu tout, quoi. Donc voilà, DOA, c'est fini, peut-être, ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, si vous avez compris, envoyez-nous un message, ça nous aidera. Peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. Là, on a un peu passé en revue... les séries Netflix qui revenaient. Celle que j'attendais le plus, moi personnellement, elle n'était pas sur Netflix, elle était sur HBO, c'était la saison 2 de Big Little Lies, qui avait elle aussi provoqué pas mal de polémiques, puisque beaucoup de gens disaient pourquoi une saison 2 alors que cette saison 1 était si parfaite, pourquoi ne pas laisser les œuvres reposer en paix, si elles ont eu un peu de succès directement, on essaie de surfer sur la vague. C'est évidemment un propos qui, moi, m'énerve, parce que quand on aime les séries, a priori, on n'est pas triste quand une série ne s'arrête pas. Ça me paraît être un peu la base, surtout quand elle a eu que quelques épisodes comme Big Little Lies, quoi. Donc, et que dire de cette saison 2? J'ai adoré. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'étais totalement fan de la saison 1 et je suis tout aussi fan de la saison 2. Je sais que certains ont dit que c'était un peu moins bon que la saison 1. Moi, je trouve pas. Ça ne traite pas, évidemment, des mêmes thèmes. Pas exactement, en tout cas, vu que le thème principal, en tout cas, le personnage qui incarnait quand même le thème principal dans la saison 1 est mort. Donc, ça aide à tourner la page. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui se mettent en place. Et c'est bien mené, c'est toujours aussi bien joué, c'est passionnant. Tu ris, tu pleures, tu passes par toutes les émotions en regardant cette saison 2 aussi. Le personnage joué par Meryl Streep en belle-mère endeuillée est absolument terrifiant.
Savoureux, détestable.
C'est absolument génial. Alors tout ce qui arrive autour autour de du personnage de j'ai un trou de mémoire, mais la mère de la petite fille qui s'était fait mordre dans la saison 1 est également moi, j'ai adoré tellement. Je suivais la frustration de cette pauvre femme, épisode après épisode. Je trouve que le dernier épisode est assez jouissif dans sa manière de régler les choses une bonne fois pour toutes. Voilà, je suis toujours aussi fan de la série. J'ai adoré. J'imagine, puisque ça a déjà suffisamment fait enrager du monde, qu'il n'y aura pas de saison 3. Hein, mais moi, ils pourraient m'en proposer encore 20 des saisons. C'est avec un plaisir infini que je continuerai à suivre les personnages de Big Little Lies. Donc voilà, franchement, si vous avez aimé la saison 1 et si vous aimez surtout les personnages, vous ne serez pas déçu par la saison 2, vu que la saison 2 garde les mêmes personnages avec tout autant de structure, d'intérêt. Ces femmes sont toutes assez passionnantes à regarder. Quoi, donc voilà.
Voilà, un coup de cœur, on le comprend.
J'ai crié mon amour à Big Little Lies. Je le ferai encore longtemps, si tu veux mon avis. Alors, on a aussi vu le retour. Alors là, c'est carrément un désenterrement. Comment on appelle ça ? Ça n'existe pas. Hein. Mais bon, bref. Beverly Hills.
Reboot,
90-210. Est-ce que c'est un reboot? C'est pas vraiment un reboot. Ils avaient fait un reboot il y a quelques années, hein, avec donc toute une ribambelle de jeunes gens qui prenaient un peu la relève à Beverly Hills. Ici, c'est un petit peu différent, puisqu'il s'agit des acteurs de la série originale, donc, qui se retrouvent à l'occasion d'une convention à l'honneur de la série, qui fête ses 30 ans, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Et à l'occasion de cette réunion, vient à certains d'entre eux l'idée folle de faire une nouvelle saison, un retour, un comeback de la série. On a vraiment un côté méta dans cette toute nouvelle mouture de Beverly Hills, puisque on suit la manière dont cette nouvelle saison fictive donc va pouvoir ou pas être réalisée, puisque y a évidemment des acteurs qui ne s'entendent pas entre eux, chacun a une vie personnelle plutôt mouvementée qu'il va falloir régler et je dois dire que c'est un vrai plaisir. Évidemment, je n'attendais absolument rien de ce retour. Je craignais le pire, évidemment, même si j'ai l'impression que le pire, ça aurait été simplement qu'il fasse, en effet, une saison de plus, tu vois, 20 ans après, Brandon, qu'est-ce qu'il fait, des trucs dans ce genre-là. Et il se moque beaucoup de ça dans cette nouvelle version, donc, puisque on a malgré tout des petits passages où ils nous mettent en effet face à ce qu'aurait pu être un retour de la série. Par exemple, le tout début du premier épisode, on les voit tous au Peach Pit avec Brandon qui, de fait, 20 ans plus tard, est toujours serveur dans ce bar un petit peu miteux, avec le jukebox bien daté. Enfin, ça, il y a un côté totalement irréel à ce truc. Et puis, ils font tout exploser et on a quelque chose d'un petit peu plus... beaucoup plus drôle, très méta et vraiment attachant, quoi, parce que autant la majorité quand même des personnages de la série originelle étaient pas forcément tous adorables et appréciables. En tout cas, moi, il y en a beaucoup que j'aimais pas beaucoup, si je peux m'exprimer comme ça.
Tu n'en aimais pas beaucoup.
Et pourtant, je regardais, hein, j'étais très jeune à l'époque, mais je regardais, mais en les détestant pour la plupart. J'aimais pas du tout le personnage de Tori Spelling, j'aimais pas du tout Brandon, Jason Priestley, j'aimais pas du tout Jenny Garth, enfin, tous ces acteurs-là, je les aimais pas. Et puis tout à coup, on les voit dans un côté beaucoup plus nature, beaucoup plus réel entre guillemets. Hein. Et là, ça marche. Là, tout à coup, ils nous apparaissent humains et on a envie de les aimer et de les suivre. Il y a évidemment le petit côté nostalgique de « Ah, je regardais ça quand j'étais jeune », mais franchement, c'est pas du tout une série qui fonctionne uniquement sur la nostalgie ou qui surfe là-dedans de manière paresseuse, quoi. Au contraire, j'ai vraiment trouvé ça très, très amusant, ce qu'ils en ont fait, et c'est vraiment un retour gagnant, quoi. Donc c'était un vrai plaisir pour moi, et je crois que tous ceux qui ont regardé la série à l'époque auront plaisir à voir ce BH90210, donc, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, paraît-il. Voilà.
Voilà, pour le côté plaisant de la chose.
Oui. Par contre, il y a eu aussi une nouvelle saison de Véronica Mars. Je ne sais pas si tu es au courant.
Non.
Une saison 4 de Véronica Mars. Donc là aussi, grand retour d'une série pour ados qui a été beaucoup adorée. Moins par moi, hein, je l'avoue. J'ai suivi, j'ai regardé, mais sans plus. J'avais donc vu les trois premières saisons avec beaucoup de recul et de critiques assez rapidement. Et à la limite, justement, comme j'étais pas trop attachée à la série, j'ai bien aimé, moi, cette saison 4. Mais par contre, ceux qui étaient très fort attachés aux personnages, aux histoires d'amour qui s'y déroulent et tout, ils risquent de se prendre une grande gifle en pleine figure en regardant cette saison 4, qui se termine pas super bien, il faut bien le dire, je suis désolée de vous l'annoncer. Et donc, ça a été aussi une série, un retour assez polémique. Mais pour moi, en tout cas, c'était vraiment appréciable. Peut-être que un format plus court avec moins d'épisodes. Alors je me frapperais de dire ça, mais pour une fois, pour Véronica Mars, je trouve que ça marchait bien parce que justement, ça signifie que sur l'ensemble de cette petite saison, on avait une seule véritable enquête qui était menée jusqu'au bout et avec plein de rebondissements. Et oui, j'ai trouvé ça très très plaisant. Alors, est-ce que le rebondissement final est un petit peu forcé? Oui, c'est possible. Mais en même temps, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais encore une fois, c'est probablement parce que j'ai pas un attachement aussi fort au personnage de Véronica Mars que certains autres. Donc voilà.
Voilà. Bah, ce sera le mot de la fin, ou presque.
Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, écoute, voilà quoi.
Bon, il restait quoi, juste pour les citer?
Il restait quoi? Ben, y a Marvel, c'est Agents of S.H.I.E.L.D. qui a terminé aussi. Donc voilà, encore une fois, ben, je suis plutôt triste que cette série-là se soit terminée. Mais en même temps, bon...
Toutes les bonnes choses ont une.
Voilà, exactement. Donc ça, c'était plaisant. Good Girls, la saison 2, était très agréable aussi. Et ça a été un vrai plaisir de la suivre. Et puis... Mais toutes les autres séries, soit qu'on a vues, soit qu'on n'a pas encore vues, on aura l'occasion d'en parler au prochain épisode.
Bah, on va dire ça.
On va dire ça comme ça, oui.
Bon, ben voilà, on va se quitter déjà en musique.
On va se quitter en musique, oui, avec Finally, hein, parce qu'on est enfin de retour, donc ça me semblait approprié. Donc Finally de Cici Peniston. Entendu dans Close et dans une petite série dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vous en parle la semaine prochaine, c'est On Becoming a God in Central Florida.
D'accord, on fait comme ça. Merci en tout cas pour cette première édition de la saison 7. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt.
À la semaine prochaine.